Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, chapitre 8. Satisfaits de leur régime, ils voulurent s'améliorer le tempérament par de la gymnastique, et ayant pris le manuel d'Amoros, ils en parcoururent l'Atlas. Tous ces jeunes garçons accroupirent renversés, debout, pliant les jambes, écartant les bras, montant le pont, soulevant des fardeaux, chevauchant des poutres, grimpant à des échelles, cabriolant sur des trapèzes. Un tel déploiement de force et d'agilité excita leur envie. Cependant, ils étaient contristés par les splendeurs du gymnase décrites dans la préface, car jamais ils ne pourraient se procurer un vestibule pour les équipages, un hippodrome pour les courses, un bassin pour la natation, ni une montagne de gloire, colline artificielle ayant 32 mètres de hauteur. Un cheval de voltige en bois avec le rembourrage eût été dispendieux. Ils y renoncèrent. Le tilleul abattu dans le jardin leur servit de mât horizontal. Et quand ils furent habiles à le parcourir d'un bout à l'autre, pour en avoir un vertical, ils replantèrent une poutrelle des contre-espaliers. Pécuchet gravit jusqu'au haut. Pouvoir glisser, retomber toujours finalement, y renonça. Les bâtons orthosométiques lui plurent davantage, c'est-à-dire deux manches à balai reliées par deux cordes, dont la première se passe sous les aisselles, la seconde sur les poignets, et pendant des heures, il gardait cet appareil, le menton levé, la poitrine en avant, les coudes le long du corps. À défaut d'haltère, le charron tourna quatre morceaux de frêne qui ressemblaient à des pains de sucre, se terminant en goulot de bouteille. On doit porter ces massues à droite, à gauche, par devant, par derrière, mais trop lourdes, elles échappaient de leurs doigts au risque de leur broyer les jambes. N'importe, ils s'acharnèrent aux 1000 personnes, et même craignant qu'elles n'éclatassent, tous les soirs, ils les frottaient avec de la cire et un morceau de drap. Ensuite, ils recherchèrent des fossés. Quand ils en avaient trouvé un à leur convenance, ils appuyaient au milieu une longue perche, s'élançaient du pied gauche, atteignaient l'autre bord, puis recommençaient. La campagne étant plate, on les apercevait au loin, et les villageois se demandaient quelles étaient ces deux choses extraordinaires bondissant à l'horizon. L'automne venu, ils se mirent à la gymnastique de chambre. Elle les ennuya. Que n'avait-il le trémoussoir ou fauteuil de poste imaginé sous Louis XIV par l'abbé de Saint-Pierre? Comment était-ce construit? Où se renseigner? Dumouchel ne daigna pas même leur répondre. Alors ils établirent dans le fournil une bascule brachiale. Sur deux poulies vissées au plafond passait une corde, tenant une traverse à chaque bout. Sitôt qu'ils l'avaient prise, l'un poussait la terre de ses orteils, l'autre baissait les bras jusqu'au niveau du sol. Le premier, par sa pesanteur, attirait le second, qui, lâchant un peu la cordelette, montait à son tour. En moins de 5 minutes, leurs membres dégouttelaient de sueur. Pour suivre les prescriptions du manuel, ils tâchèrent de devenir ambidextres jusqu'à se priver de la main droite temporairement. Ils firent plus. Amoros indique les pièces de vers qu'il faut chanter dans les manœuvres, et Bouvard et Pécuchet, en marchant, répétaient l'hymne numéro 9. Un roi juste, est un bien sur la terre. Quand ils se battaient les pectoraux, amis, la couronne et la gloire, etc. Au pas de course, à nous, l'animal timide, atteignons le cerf rapide. Oui, nous vaincrons. Courons, courons, courons. Et plus haletant que des chiens, ils s'animaient au bruit de leur voix. Un côté de la gymnastique les exaltait, son emploi comme moyen de sauvetage. Mais il aurait fallu des enfants pour apprendre à les porter dans des sacs. Et ils prièrent le maître d'école de leur en fournir quelques-uns. Petit objecta que les familles soigneraient. Ils se rabattirent sur les secours aux blessés. L'un feignait d'être évanoui et l'autre le charriait dans une brouette avec toutes sortes de précautions. Quant aux escalades militaires, l'auteur préconise l'échelle de bois rosé ainsi nommée du capitaine qui surprit Fécamp autrefois en montant par la falaise. D'après la gravure du livre, ils garnirent de bâtonnets un câble et l'attachèrent sous le hangar. Dès qu'on a enfourché le premier bâton et saisi le troisième, on jette ses jambes en dehors pour que le deuxième qui était tout à l'heure contre la poitrine se trouve juste sous les cuisses. On se redresse, on empoigne le quatrième, et l'on continue. Malgré de prodigieux déhanchements, il leur fut impossible d'atteindre le deuxième échelon. Peut-être a-t-on moins de mal en s'accrochant au pied avec les mains, comme firent les soldats de Bonaparte à l'attaque du fort Chambray. Et pour vous rendre capable d'une telle action, Amoros possède une tour dans son établissement. Le mur en ruine pouvait la remplacer, ils en tentèrent l'assaut. Mais Bouvard, ayant retiré trop vite son pied d'un trou, eut peur et fut d'étourdissement. Pécuchet en accusa leur méthode. Ils avaient négligé ce qui concerne les phalanges si bien qu'ils devaient se remettre au principe. Ses exhortations furent vaines, et dans son orgueil et sa présomption, il aborda les échasses. La nature semblait l'y avoir destiné, car il employa tout de suite le grand modèle ayant des palettes à 4 pieds du sol, et en équilibre là-dessus, il arpentait le jardin, pareil à une gigantesque cigogne qui se fût promenée. Bouvard, à la fenêtre, le vit tituber, puis s'abattre d'un bloc sur les haricots, dont les rames, en se fracassant, amortirent sa chute. On le ramassa couvert de terreau, les narines saignantes et vides, et il croyait s'être donné un effort. Décidément, la gymnastique ne convenait point à des hommes de leur âge. Ils l'abandonnèrent, n'osaient plus se mouvoir par crainte des accidents, et il restait tout le long du jour assis dans le muséum à rêver d'autres occupations. Ce changement d'habitude influa sur la santé de Bouvard. Il devint très lourd, soufflait après ses repas comme un cachalot, voulut se faire maigrir, mangea moins et s'affaiblit. Pécuchet également se sentait miné, avait des démangeaisons à la peau et des plaques dans la gorge. « Ça ne va pas, disait-il, ça ne va pas. » Bouvard imagina d'aller choisir à l'auberge quelques bouteilles de vin d'Espagne afin de se remonter la machine. Comme il en sortait, le clerc de Maresco et 3 hommes apportaient à belles jambes une grande table de noyer. Monsieur l'en remerciait beaucoup. Elle s'était parfaitement conduite. Bouvard connut ainsi la bonne nouvelle des tables tournantes. Il en plaisanta le clerc. Cependant, par toute l'Europe, en Amérique, en Australie et dans les Indes, des millions de mortels passaient leur vie à faire tourner des tables. Et on découvrait la manière de rendre les serins prophètes, de donner des concerts sans instruments, de correspondre au moyen des escargots. La presse offrant avec sérieux ses bourdes au public le renforçait dans sa crédulité. Les esprits frappeurs avaient débarqué au château de Faverges, de là s'étaient répandus dans le village, et le notaire principalement les questionnait. Choqué du scepticisme de Bouvard, il convia les 2 amis à une soirée de table tournante. Était-ce un piège? Madame Bordin se trouverait là. Pécuchet seul s'y rendit. Il y avait comme assistants le maire, le percepteur, le capitaine, d'autres bourgeois et leurs épouses, Madame Vaucorbeil, Madame Bordin, effectivement, de plus une ancienne sous-maîtresse de Madame Maresco, Mademoiselle Laverrière, personne un peu louche avec des cheveux gris tombant en spirale sur les épaules à la façon de 1830. Dans un fauteuil se tenait un cousin de Paris costumé d'un habit bleu, et l'air impertinent. Les 2 lampes de bronze, l'étagère de curiosités, des romans à vignettes sur le piano et des aquarelles minuscules dans des cadres exorbitants faisaient toujours l'étonnement de Chavignol. Mais ce soir-là, les yeux se portaient vers la table d'acajou. On l'éprouverait tout à l'heure et elle avait l'importance des choses qui contiennent un mystère. 2 invités prirent place autour d'elle, les mains étendues, les petits doigts se touchant. On n'entendait que le battement de la pendule. Les visages dénotaient une attention profonde. Au bout de 10 minutes, plusieurs se plaignirent de fourmillements dans les bras. Pécuchet était incommodé. « Vous poussez, » dit le capitaine à fourreau. « Pas du tout. Si fait. Ah, monsieur !» Le notaire les calma. À force de tendre l'oreille, on put distinguer des craquements de bois. Illusion. Rien ne bougeait. L'autre jour, quand les familles Aubert et Lormeaux étaient venues de Lisieux et qu'on avait emprunté exprès la table de belles jambes, tout avait si bien marché. Mais celle-là, aujourd'hui, montrait un entêtement. Pourquoi? Le tapis, sans doute, l'a contrarié, et on passa dans la salle à manger. Le meuble choisi fut un large guéridon où s'installèrent Pécuchet, Girbal, Madame Maresco et son cousin, Monsieur Alfred. Le guéridon, qui avait des roulettes, glissa vers la droite. Les opérateurs, sans déranger leurs doigts, suivirent son mouvement, et de lui-même il fit encore 2 tours. On fut stupéfait. Alors Monsieur Alfred articula d'une voix haute. « Esprit, comment trouves-tu ma cousine ?» Le guéridon, en oscillant avec lenteur, frappa 9 coups. D'après une pancarte où le nombre des coups se traduisait par des lettres, cela signifiait « charmante ». Des bravos éclatèrent. Puis Marescot, taquinant Madame Bordin, somma l'esprit de déclarer l'âge exact qu'elle avait. Le pied du guéridon retomba 5 fois. « Comment 5 ans ?» s'écria Gerbal. « Les dizaines ne comptent pas, » reprit Fourreau. La veuve sourit, intérieurement vexée. Les réponses aux autres questions manquèrent tant l'alphabet était compliqué. Mieux valait la planchette, moyen expéditif dont Mademoiselle Laverrière s'était même servie pour noter sur un album les communications directes de Louis XII, Clément Cisor, Franklin, Jean-Jacques Rousseau, etc. Ces mécaniques se vendaient rude au mal, Monsieur Alfred en promit une. Puis s'adressant à la sous-maîtresse, « Mais pour le quart d'heure, un peu de piano, n'est-ce pas ? Une mazurque. » 2 accords plaqués vibrèrent, il prit sa cousine à la taille, disparut avec elle, revint. On était rafraîchi par le vent de la robe qui frôlait les portes en passant. Elle se renversait la tête, il arrondissait son bras. On admirait la grâce de l'une, l'air fringant de l'autre. Et sans attendre les petits fours, Pécuchet se retira, ébahi de la soirée. Il eut beau répéter, « Mais j'ai vu !» Bouvard niait les faits et néanmoins consentit à expérimenter lui-même. Pendant 15 jours, ils passèrent leurs après-midi en face l'un de l'autre, les mains sur une table, puis sur un chapeau, sur une corbeille, sur des assiettes. Tous ces objets demeurèrent immobiles. Le phénomène des tables tournantes n'en est pas moins certain. Le vulgaire l'attribue à des esprits faradés au prolongement de l'action nerveuse, Chevreul à l'inconscience des efforts, ou peut-être, comme admet Ségouin, se dégage-t-il de l'assemblage des personnes une impulsion, un courant magnétique. Cette hypothèse fit rêver Pécuchet. Il prit dans sa bibliothèque le guide du magnétiseur par Montacabert, le relut attentivement et initia Bouvard à la théorie. Tous les corps animés reçoivent et communiquent l'influence des astres, propriété analogue à la vertu de l'aimant. En dirigeant cette force, on peut guérir les malades, voilà le principe. La science depuis Mesmer s'est développée, mais il importe toujours de verser le fluide et de faire des passes qui, premièrement, doivent endormir. « Eh bien, endors-moi, » dit Bouvard. « Impossible, » répliqua Pécuchet. « Pour subir l'action magnétique et pour la transmettre, la foi est indispensable. » Puis, considérant Bouvard, « Ah, quel dommage !»« Comment ?» Oui, si tu voulais, avec un peu de pratique, il n'y aurait pas de magnétiseur comme toi. Car il possédait tout ce qu'il faut, l'abord prévenant, une constitution robuste et un moral solide. Cette faculté qu'on venait de lui découvrir flatta Bouvard. Il se plongea sournoisement dans Montacabert. Puis, comme Germaine avait des bourdonnements d'oreilles qui l'assourdissaient, il dit un soir d'un ton négligé, si on essayait du magnétisme. Elle ne s'y refusa pas. Il s'assit devant elle, lui prit les 2 pouces dans ses mains et la regarda fixement comme s'il n'eût fait autre chose de toute sa vie. La bonne femme, une chaufferette sous les talons, commença par fléchir le cou. Ses yeux se fermèrent et, tout doucement, elle se mit à ronfler. Au bout d'une heure qu'il la contemplait, Pécuchet dit à voix basse, « Que sentez-vous ? » Elle se réveilla. Plus tard, sans doute, la lucidité viendrait. Ce succès les enhardit, et reprenant avec aplomb l'exercice de la médecine, ils soignèrent Chamberlan, le bedeau, pour ses douleurs intercostales, Migraine, le maçon, affecté d'une névrose de l'estomac, la mère Varin, dont l'encéphaloïde sous la clavicule exigeait pour se nourrir des emplâtres de viande, un goutteux, le père Lemoine, qui se traînait au bord des cabarets, un phtisique, un hémiplégique, bien d'autres. Ils traitèrent aussi des coryzas et des engelures. Après l'exploration de la maladie, ils s'interrogeaient du regard pour savoir quelles passes employer, si elle devait être à grand ou à petit courant, ascendante ou descendante, longitudinale, transversale, bidigite, tridigite ou même quindigite. Quand l'un en avait trop, l'autre le remplaçait. Puis, revenus chez eux, ils notaient les observations sur le journal du traitement. Leurs manières onctueuses captèrent le monde. Cependant, on préférait Bouvard, et sa réputation parvint jusqu'à Falaise quand il eut guéri la Barbée, la fille du père Barbet, un ancien capitaine au long cours. Elle sentait comme un clou à l'occiput parler d'une voix rauque, rester souvent plusieurs jours sans manger, puis dévorer du plat ou du charbon. Ses crises nerveuses, débutant par des sanglots, se terminaient dans un flux de larmes. Et on avait pratiqué tous les remèdes, depuis les tisanes jusqu'au moxa, si bien que, par lassitude, elle accepta les offres de Bouvard. Quand il eut congédié la servante et poussé les verrous, il se mit à frictionner son abdomen en appuyant sur la place des ovaires. Un bien-être se manifesta par des soupirs et des bâillements. Il lui posa un doigt entre les sourcils, au haut du nez. Tout à coup, elle devint inerte. Si on levait ses bras, il retombait. Sa tête garda les attitudes qu'il voulut. Et les paupières à demi-closes, en vibrant d'un mouvement spasmodique, laissaient apercevoir les globes des yeux qui roulaient avec lenteur. Ils se fixèrent dans les angles convulsés. Bouvard lui demanda si elle souffrait, elle répondit que non. Ce qu'elle éprouvait maintenant, elle distinguait l'intérieur de son corps. « Qui voyez-vous ? Un ver. Que faut-il pour le tuer ?» Son front se plissa. « Je cherche. Je ne peux pas, je ne peux pas. » À la deuxième séance, elle prescrivit un bouillon d'ortie. À la troisième, de l'herbe au chat. Les crises s'atténuèrent, disparurent. C'était vraiment comme un miracle. La digitation nasale ne réussit point avec les autres, et pour amener le somnambulisme, ils projetèrent de construire un baquet mesmérien. Déjà même Pécuchet avait recueilli de la limaille et nettoyé une vingtaine de bouteilles quand un scrupule l'arrêta. Parmi les malades, il viendrait des personnes du sexe. Et que ferons-nous s'il leur prend des accès d'érotisme furieux ? Cela n'eût pas arrêté Bouvard, mais à cause des potins et du chantage, peut-être mieux valait s'abstenir. Ils se contentèrent d'un harmonica et le portaient avec eux dans les maisons, ce qui réjouissait les enfants. Un jour que Migraine était plus mal, ils y recoururent. Les sons cristallins l'exaspérèrent, mais Deleuze ordonne de ne pas s'effrayer des plaintes. La musique continua. « Assez, assez » criait-il. « Un peu de patience !» répétait Bouvard. Pécuchet tapotait plus vite sur les lames de verre, et l'instrument vibrait, et le pauvre homme hurlait. Dont le médecin parut, attiré par le vacarme. « Comment encore vous ? » s'écria-t-il, furieux de les retrouver toujours chez ses clients. Ils expliquèrent leurs moyens magnétiques, alors il tonna contre le magnétisme, un tas de jongleries et dont les effets proviennent de l'imagination. Cependant, on magnétise des animaux. Montacabert l'affirme, et M. Fontaine est parvenu à magnétiser une lionne. Il n'avait pas de lionne, mais le hasard leur offrit une autre bête. Car le lendemain, à 6 heures, un valet de charrue vint leur dire qu'on les réclamait à la ferme pour une vache désespérée. Ils y coururent. Les pommiers étaient en fleurs et l'herbe dans la cour fumait sous le soleil levant. Au bord de la mare, à demi couverte d'un drap, une vache beuglait, grelottante des seaux d'eau qu'on lui jetait sur le corps et démesurément gonflée, elle ressemblait à un hippopotame. Sans doute elle avait pris du venin en pâturant dans les trèfles. Le père et la mère Gouy se désolaient car le vétérinaire ne pouvait venir et un charron qui savait des mots contre l'enflure ne voulait pas se déranger. Mais ces messieurs, dont la bibliothèque était célèbre, devaient connaître un secret. Ayant retroussé leurs manches, ils se placèrent l'un devant les cornes, l'autre à la croupe. Et avec de grands efforts intérieurs et une gesticulation frénétique, ils écartaient les doigts pour épandre sur l'animal des ruisseaux de fluide. Tandis que le fermier, son épouse, leurs garçons et des voisins les regardaient presque effrayés. Les gargouillements que l'on entendait dans le ventre de la vache provoquèrent des borborings au fond de ses entrailles. Elle émit un vent. Pécuchet dit alors « C'est une porte ouverte à l'espérance, un débouché peut-être. » Le débouché s'opéra. L'espérance jaillit dans un paquet de matière jaune éclatant avec la force d'un obus. Les cuirs se desserrèrent, la vache dégonfla. Une heure après, il n'y paraissait plus. Ce n'était pas l'effet de l'imagination, certainement. Donc le fluide contient une vertu particulière. Elle se laisse enfermer dans des objets où on ira la prendre sans qu'elle se trouve affaiblie. Un tel moyen épargne les déplacements. Ils l'adoptèrent. Et ils envoyaient à leur pratique des jetons magnétisés, des mouchoirs magnétisés, de l'eau magnétisée, du pain magnétisé. Puis, continuant leurs études, ils abandonnèrent les passes pour le système de puits Ségur, qui remplace le magnétiseur par un vieil arbre, autour duquel une corde s'enroule. Un poirier dans leur masure semblait fait tout exprès. Ils le préparèrent en l'embrassant fortement à plusieurs reprises. Un banc fut établi en dessous, leurs habitués s'y rangeaient, et ils obtinrent des résultats si merveilleux que, pour enfoncer vos corbeilles, ils le convièrent à une séance avec les notables du pays. Pas un n'y manqua. Germaine les reçut dans la petite salle en priant de faire excuse. Ses maîtres allaient venir. De temps à autre, on entendait un coup de sonnette. C'étaient des malades qu'elle introduisait ailleurs. Les invités se montraient du coude les fenêtres poussiéreuses, les taches sur les lambris, la peinture s'éraillant, et le jardin était lamentable. Du bois mort partout, deux bâtons devant la brèche du mur, paraient le verger. Pécuchet se présenta. « À vos ordres, messieurs !» Et l'on vit au fond, sous le poirier d'Edwine, plusieurs personnes assises. Chamberlan sans barbe, comme un prêtre et en soutanelle de lasting avec une calotte de cuir, s'abandonnait à des frissons occasionnés par sa douleur intercostale. Migraine, souffrant toujours de l'estomac, grimaçait près de lui. La mère Varin, pour cacher sa tumeur, portait un châle à plusieurs tours. Le père Lemoine, pieds nus dans des savates, avait ses béquilles sous les jarrets. Et la barbée, en costume des dimanches, était pâle extraordinairement. De l'autre côté de l'arbre, on trouva d'autres personnes. Une femme à figure d'albinos épongée, les glandes suppurantes de son cou. Le visage d'une petite fille disparaissait à moitié sous des lunettes bleues. Un vieillard dont une contracture déformait l'échine heurtait de ses mouvements involontaires Marcel, une espèce d'idiot couvert d'une blouse en loques et d'un pantalon rapiécé. Son bec de lièvre mal recousu laissait voir ses incisives, et des linges embobinaient sa joue, tuméfié par une énorme fluxion. Tous tenaient à la main une ficelle descendant de l'arbre et des oiseaux chantaient. L'odeur du gazon attiédi se roulait dans l'air. Le soleil passait entre les branches. On marchait sur de la mousse. Cependant, les sujets, au lieu de dormir, écarquillaient leurs paupières. « Jusqu'à présent, ce n'est pas drôle, dit Fourreau. Commencez, je m'éloigne une minute. » Et il revint en fumant dans un Abdelkader, reste dernier de la porte aux pipes. Pécuchet se rappela un excellent moyen de magnétisation. Il mit dans sa bouche tous les nez des malades et aspira leur haleine pour tirer à lui l'électricité. Et en même temps, Bouvard étreignait l'arbre dans le but d'accroître le fluide. Le maçon interrompit ses hoquets, le bedeau fut moins agité, l'homme à la contracture ne bougea plus. On pouvait maintenant s'approcher d'eux, leur faire subir toutes les épreuves. Le médecin avec sa lancette piqua sous l'oreille Chamberlan, qui tressaillit un peu. La sensibilité chez les autres fut évidente. Le goutteux poussa un cri. Quant à la barbée, elle souriait comme dans un rêve, et un filet de sang lui coulait sous la mâchoire. Fourreau, pour l'éprouver lui-même, voulut saisir la lancette, et le docteur l'ayant refusé, il pinça la malade fortement. Le capitaine lui chatouilla les narines avec une plume. Le percepteur allait lui enfoncer une épingle sous la peau. « Laissez-la donc, dit vos corbeilles. Rien d'étonnant après tout, une hystérique. Le diable y perdrait son latin. »« Celle-là, dit Pécuchet en désignant Victoire, la femme scrofuleuse, est un médecin. Elle reconnaît les affections et indique les remèdes. » Langlois brûlait de la consulter sur son catarrhe. Il n'osa, mais Coulon, plus brave, demanda quelque chose pour ses rhumatismes. Pécuchet lui mit la main droite dans la main gauche de Victoire, et les cils toujours clos, les pommettes un peu rouges, les lèvres frémissantes, la somnambule, après avoir divagué, ordonna du Valum Begum. Elle avait servi à Bayeux chez un apothicaire. Vos corbeilles en inféra qu'elle voulait dire de l'album Graecum, mot entrevu peut-être dans la pharmacie. Puis il aborda le père Lemoine qui, selon Bouvard, percevait les objets à travers les corps opaques. C'était un ancien maître d'école tombé dans la crapule. Des cheveux blancs s'éparpillaient autour de sa figure et adossés contre l'arbre, les paumes ouvertes, il dormait en plein soleil d'une façon majestueuse. Le médecin attacha sur ses paupières une double cravate et Bouvard, lui présentant un journal, dit impérieusement « Lisez ». Il baissa le front, remua les muscles de sa face, puis se renversa la tête et finit par épeler « constitutionnel ». Mais avec de l'adresse, on fait glisser tous les bandeaux. Ces dénégations du médecin révoltaient Pécuchet. Il s'aventura jusqu'à prétendre que la barbée pourrait décrire ce qui se passait actuellement dans sa propre maison. « Soit, répondit le docteur. Et ayant tiré sa montre, à quoi ma femme s'occupe-t-elle ? » La barbée hésita longtemps, puis d'un air maussade, « Un quoi ? Ah, j'y suis. Elle coud des rubans à un chapeau de paille. » Vaucorbeil arracha une feuille de son calepin et écrivit un billet que le clerc de Marescot s'empressa de porter. La séance était finie, les malades s'en allèrent. Bouvard et Pécuchet, en somme, n'avaient pas réussi. Cela tenait-il à la température ou à l'odeur du tabac ou au parapluie de l'abbé Geoffroy qui avait une garniture de cuivre, métal contraire à l'émission fluidique. Vaucorbeil haussa les épaules. Cependant, il ne pouvait contester la bonne foi de messieurs Deleuze, Bertrand, Morin, Jules Cloquet. Or, ces maîtres affirment que des somnambules ont prédit des événements, subi sans douleur des opérations cruelles. L'abbé rapporta des histoires plus étonnantes. Un missionnaire a vu des brahmanes parcourir une route, la tête en bas. Le grand lama au Tibet se fend les boyaux pour rendre des oracles. « Plaisantez-vous ? » dit le médecin. « Nullement. Allons donc, quelle farce !» Et la question se détournant, chacun produisit des anecdotes. « Moi, dit l'épicier, j'ai eu un chien qui était toujours malade quand le mois commençait par un vendredi. Nous étions 14 enfants, reprit le juge de paix. Je suis né un 14, mon mariage eut lieu un 14, et le jour de ma fête tombe un 14. Expliquez-moi ça. » Bellejambe avait rêvé bien des fois le nombre des voyageurs qu'il aurait le lendemain dans son auberge, et Petit compta le souper de Cazotte. Le curé alors fit cette réflexion. Pourquoi ne pas voir là-dedans, tout simplement? Les démons, n'est-ce pas? Dit Vaucorbeil. L'abbé, au lieu de répondre, eut un signe de tête. Marescot parla de la pitié de Delphes, sans aucun doute des miasmes. Ah, les miasmes maintenant! Moi, j'admets un fluide, reprit Bouvard. Nervo-sidéral, ajouta Pécuchet. Mais prouvez-le, montrez-le, votre fluide! D'ailleurs, les fluides sont démodés, écoutez-moi. Vaucorbeil alla plus loin se mettre à l'ombre, les bourgeois le suivirent. Si vous dites à un enfant, je suis un loup, je vais te manger. Il se figure que vous êtes un loup, et il a peur. C'est donc un rêve commandé par des paroles. De même, le somnambule accepte les fantaisies que l'on voudra. Il se souvient, il n'imagine pas, obéit toujours, n'a que des sensations dont il croit penser. De cette manière, des crimes sont suggérés, et des gens vertueux pourront se voir bêtes féroces et devenir anthropophages, involontairement. On regarda Bouvard et Pécuchet. Leur science avait des périls pour la société. Le clerc de Marescot reparut dans le jardin en brandissant une lettre de Madame Vaucorbeil. Le docteur la décacheta, pâlit, et enfin lut ces mots. « Je couds des rubans à un chapeau de paille. » La stupéfaction empêcha de rire. Une coïncidence parbleu, ça ne pouvait rien. Et comme les deux magnétiseurs avaient un air de triomphe, il se retourna sous la porte pour leur dire « Ne continuez plus, ce sont des amusements dangereux. » Le curé, en emmenant son bedeau, le tensa vertement. « Êtes-vous fou ? Sans ma permission, des manœuvres défendues par l'Église. » Tout le monde venait de partir, Bouvard et Pécuchet causaient sur le vigneau avec l'instituteur. Quand Marcel débusqua du verger, la mentonnière des fêtes, et il bredouillait. « Guéri, guéri, bon messieurs !»« Bien, assez, laisse tout tranquille. »« Ah, bon messieurs, je vous aime. Serviteur !» Petit homme de progrès avait trouvé l'explication du médecin terre-à-terre, bourgeoise. « La science est un monopole aux mains des riches, elle exclut le peuple. À la vieille analyse du Moyen-Âge, il est temps que succède une synthèse large et pipsetière. La vérité doit s'obtenir par le cœur. » Et se déclarant spiritiste, il indiqua plusieurs ouvrages, défectueux sans doute, mais qui étaient le signe d'une aurore. Ils se les firent envoyer. Le spiritisme pose en dogme l'amélioration fatale de notre espèce. La terre, un jour, deviendra le ciel, et c'est pourquoi cette doctrine charmait l'instituteur. Sans être catholique, elle se réclame de saint Augustin et de saint Louis. Allan Kardec publie même des fragments dictés par eux et qui sont au niveau des opinions contemporaines. Elle est pratique, bienfaisante, et nous révèle, comme le télescope, les mondes supérieurs. Les esprits, après la mort et dans l'extase, y sont transportés. Mais quelquefois, ils descendent sur notre globe où ils font craquer les meubles, se mêlent à nos divertissements, goûtent les beautés de la nature et les plaisirs des arts. Cependant, plusieurs d'entre nous possèdent une trompe aromale, c'est-à-dire derrière le crâne un long tuyau qui monte depuis les cheveux jusqu'aux planètes et nous permet de converser avec les esprits de Saturne. Les choses intangibles n'en sont pas moins réelles, et de la Terre aux astres, des astres à la Terre, c'est un va-et-vient, une transmission, un échange continu. Alors le cœur de Pécuchet se gonfla d'aspirations désordonnées, et quand la nuit était venue, Bouvard le surprenait à sa fenêtre, contemplant ces espaces lumineux qui sont peuplés d'esprits. Swedenborg y a fait de grands voyages, car en moins d'un an, il a exploré Vénus, Mars, Saturne et 23 fois Jupiter. De plus, il a vu à Londres Jésus-Christ, il a vu saint Paul, il a vu saint Jean, il a vu Moïse, et en 1736, il a même vu le jugement dernier. Aussi nous donne-t-il des descriptions du ciel. On y trouve des fleurs, des palais, des marchés et des églises, absolument comme chez nous. Les anges, hommes autrefois, couchent leurs pensées sur des feuillets, devisent des choses du ménage ou bien de matière spirituelle, et les emplois ecclésiastiques appartiennent à ceux qui, dans leur vie terrestre, ont cultivé l'écriture sainte. Quant à l'enfer, il est plein d'une odeur nauséabonde avec des cahutes, des tas d'immondices, des personnes mal habillées. Et Pécuchet s'abîmait l'intellect pour comprendre ce qu'il y a de beau dans ces révélations. Elles parurent à Bouvard le délire d'un imbécile. Tout cela dépasse les bornes de la nature. Qui les connaît cependant? Et ils se livrèrent aux réflexions suivantes. Des battleurs peuvent illusionner une foule. Un homme ayant des passions violentes en remuera d'autres. Mais comment la seule volonté agirait-elle sur la matière inerte? Un bavarois, dit-on, mûrit les raisins. Monsieur Gervais a ranimé un héliotrope. Un plus fort à Toulouse écarte les nuages. Faut-il admettre une substance intermédiaire entre le monde et nous? L'eau d'un nouvel impondérable, une sorte d'électricité, n'est pas autre chose peut-être. Ces émissions expliquent la lueur que les magnétisés croient voir, les feux errants des cimetières, la forme des fantômes. Ces images ne seraient donc pas une illusion, et les dons extraordinaires des possédés, pareils à ceux des somnambules, auraient une cause physique. Quelle qu'en soit l'origine, il y a une essence, un agent secret et universel. Si nous pouvions le tenir, on n'aurait pas besoin de la force, de la durée. Ce qui demande des siècles se développer en une minute, tout miracle serait praticable et l'univers à notre disposition. La magie provenait de cette convoitise éternelle de l'esprit humain. On a sans doute exagéré sa valeur, mais elle n'est pas un mensonge. Des orientaux qui la connaissent exécutent des prodiges. Tous les voyageurs le déclarent, et au palais royal, M. Dupoté trouble avec son doigt l'aiguille aimantée. Comment devenir magicien? Cette idée leur parut folle d'abord, mais elle revint, et tourmenta, et ils y cédèrent tout en affectant d'en rire. Un régime préparatoire est indispensable. Afin de mieux s'exalter, ils vivaient la nuit, jeûnaient, et voulant faire de Germaine un médium plus délicat, rationnèrent sa nourriture. Elle se dédommageait sur la boisson et but tant d'eau-de-vie qu'elle acheva promptement de s'alcooliser. Leur promenade dans le couloir la réveillait. Elle confondait le bruit de leurs pas avec ses bourdonnements d'oreilles et les voix imaginaires qu'elle entendait sortir des murs. Un jour qu'elle avait mis le matin un carrelet dans la cave, elle eut peur en le voyant tout couvert de feu, se trouva désormais plus mal et finit par croire qu'il lui avait jeté un sort. Espérant gagner des visions, ils se comprimèrent la nuque réciproquement. Ils se firent des sachets de Belladone, enfin ils adoptèrent la boîte magique, une petite boîte d'où s'élève un champignon hérissé de clous que l'on garde sur le cœur par le moyen d'un ruban attaché à sa poitrine. Tout rata, mais il pouvait employer le cercle de Dupoté. Pécuchet, avec du charbon, barbouilla sur le sol une rondelle noire, afin d'y enclore les esprits animaux que devaient aider les esprits ambiants, et heureux de dominer Bouvard, il lui dit d'un air pontifical « Je te défie de le franchir ». Bouvard considéra cette place ronde, bientôt son cœur battit, ses yeux se troublaient. « Ah, finissons !» Et il sauta par-dessus pour fuir un malaise inexprimable. Pécuchet, dont l'exaltation allait croissant, voulait faire apparaître un mort. Sous le directoire, un homme en rue de l'échiquier montrait les victimes de la terreur. Les exemples de revenants sont innombrables. Que ce soit une apparence, qu'importe, il s'agit de la produire. Plus le défunt nous touche de près, mieux il accourt à notre appel, mais il n'avait aucune relique de sa famille, ni bague, ni miniature, pas un cheveu, tandis que Bouvard était dans les conditions à évoquer son père. Et comme il témoignait de la répugnance, Pécuchet lui demanda « Que crains-tu ? Moi ? Oh, rien du tout. Fais ce que tu voudras. » Ils soudoyèrent Chamberlain, qui leur fournit en cachette une vieille tête de mort. Un couturier leur tailla deux hauts plans noirs avec un capuchon comme à la robe de moine. La voiture de Falaise leur apporta un long rouleau dans une enveloppe. Puis ils se mirent à l'œuvre, l'un curieux de l'exécuter, l'autre ayant peur d'y croire. Le muséum était tendu comme un catafalque. Trois flambeaux brûlés au bord de la table poussaient contre le mur sous le portrait du père Bouvard que dominait la tête de mort. Ils avaient même fourré une chandelle dans l'intérieur du crâne et des rayons se projetaient par les deux orbites. Au milieu, sur une chaufferette, de l'encens fumé, Bouvard se tenait derrière et Pécuchet, lui tournant le dos, jetait dans l'âtre des poignées de soufre. Avant d'appeler un mort, il faut le consentement des démons. Or, ce jour-là était un vendredi, jour qui appartient à Bécher. On devait s'occuper de Bécher premièrement. Bouvard, ayant salué de droite et de gauche, fléchit le menton et levé les bras, commença. Par Étaniel, Anazin, Ikiro, il avait oublié le reste. Pécuchet bien vite souffla les mots notés sur un carton. Ikiro, Atano, Adonai, Sadaï, Eloi, Messiasso, la kyrielle était longue. « Je te conjure, je t'observe, je t'ordonne, ô Bécher !» Puis, baissant la voix, « Où es-tu, Bécher ? Bécher ? Bécher ? Bécher ! » Bouvard s'affaissa dans le fauteuil, et il était bien aise de ne pas voir Bécher, un instinct lui reprochant sa tentative comme un sacrilège. Où était l'âme de son père ? Pouvait-elle l'entendre ? Si tout à coup elle allait venir. Les rideaux se remuaient avec lenteur sous le vent qui entrait par un carreau fêlé, et les cierges balançaient des ombres sur le crâne de mort et sur la figure peinte. Une couleur terreuse les brunissait également. De la moisissure dévorait les pommettes, les yeux n'avaient plus de lumière, mais une flamme brillait au-dessus, dans les trous de la tête vide. Elle semblait quelquefois prendre la place de l'autre posée sur le collet de la redingote à voir ses favoris, et la toile à demi déclouée oscillait, palpitait. Peu à peu, ils sentirent comme l'effleurement d'une haleine l'approche d'un être impalpable. Des gouttes de sueur mouillaient le front de Pécuchet, et voilà que Bouvard se mit à claquer des dents. Une crampe lui serrait l'épigastre. Le plancher, comme une onde, fuyait sous ses talons. Le soufre qui brûlait dans la cheminée se rabattit à grosse volute, des chauves-souris en même temps tournoyaient. Un cri s'éleva. Qui était-ce ? Ils avaient sous leur capuchon des figures tellement décomposées que leur effroi en redoublait, n'osant faire un geste ni même parler, quand, derrière la porte, ils entendirent des gémissements comme ceux d'une âme en peine. Enfin, ils se hasardèrent. C'était leur vieille bonne qui, les espionnant par une fente de la cloison, avait cru voir le diable, et à genoux dans le corridor, elle multipliait les signes de croix. Tout raisonnement fut inutile. Elle les quitta le soir même, ne voulant plus servir des gens pareils. Germaine bavarda, Chamberlain perdit sa place, et il se forma contre eux une sourde coalition, entretenue par l'abbé Geoffroy, Madame Bordin et Fourreau. Leur manière de vivre, qui n'était pas celle des autres, déplaisait. Ils devinrent suspects et même inspirer une vague terreur. Ce qui les ruina surtout dans l'opinion, ce fut le choix de leur domestique. À défaut d'un autre, ils avaient pris Marcel, son bec de lièvre saïdeur et son baragouin écartés de sa personne. Enfant abandonné, il avait grandi au hasard dans les champs et conservé de sa longue misère une faim irrassasiable. Les bêtes mortes de maladie, du lard en pourriture, un chien écrasé, tout lui convenait, pourvu que le morceau fût gros. Et il était doux comme un mouton, mais entièrement stupide. La reconnaissance l'avait poussé à s'offrir comme serviteur chez messieurs Bouvard et Pécuchet. Et puis, les croyant sorciers, il espérait des gains extraordinaires. Dès les premiers jours, il leur confia un secret. Sur la bruyère de Poligny, autrefois, un homme avait trouvé un lingot d'or. L'anecdote est rapportée dans les Historiens de Falaise. Ils ignoraient la suite. 12 frères, avant de partir pour un voyage, avaient caché 12 lingots pareils tout le long de la route depuis Chavignol jusqu'à Bretteville. Et Marcel supplia ses maîtres de recommencer les recherches. Ces lingots, se dirent-ils, avaient peut-être été enfouis au moment de l'émigration. C'était le cas d'employer la baguette divinatoire. Les vertus en sont douteuses. Ils étudièrent la question cependant et apprirent qu'un certain Pierre Garnier donne pour les défendre des raisons scientifiques. Les sources et les métaux projetteraient des corpuscules en affinité avec le bois. Cela n'est guère probable. Qui sait pourtant, essayons. Ils se taillèrent une fourchette de coudrier et un matin partirent à la découverte du trésor. Il faudra le rendre, dit Bouvard. Ah non, par exemple. Après 3 heures de marche, une réflexion les arrêta. La route de Chavignol à Bretteville, était-ce l'ancienne ou la nouvelle? Ce devait être l'ancienne. Ils rebroussèrent chemin et parcoururent les alentours au hasard, le tracé de la vieille route n'étant pas facile à reconnaître. Marcel courait de droite et de gauche, comme un épagneul en chasse. Toutes les 5 minutes, Bouvard était contraint de le rappeler. Pécuchet avançait pas à pas, tenant la baguette par les 2 branches, la pointe en haut. Souvent, il lui semblait qu'une force, comme un crampon, l'attirait vers le sol, et Marcel bien vite faisait une entaille aux arbres voisins pour retrouver la place plus tard. Pécuchet, cependant, se ralentissait, sa bouche s'ouvrit, ses prunelles se convulsèrent. Bouvard l'interpella, le secoua par les épaules. Il ne remua pas et demeurait inerte, absolument, comme la barbée. Puis il conta qu'il avait senti autour du cœur une sorte de déchirement, état bizarre provenant de la baguette sans doute, et il ne voulait plus y toucher. Le lendemain, ils revinrent devant les marques faites aux arbres. Marcel avec une bêche creusait des trous, jamais la fouille n'amenait rien, et ils étaient chaque fois extrêmement penauds. Pécuchet s'assit au bord d'un fossé, comme il rêvait, la tête levée, s'efforçant d'entendre la voix des esprits par sa trompe aromale, se demandant même s'il en avait une. Il fixa ses regards sur la visière de sa casquette. L'extase de la veille le reprit. Elle dura longtemps, devenait effrayante. Au-dessus des avoines, dans un sentier, un chapeau de feutre parut. C'était M. Vaucorbeil trottinant sur sa jument. Bouvard et Marcel le hélèrent. La crise allait finir quand arriva le médecin. Pour mieux examiner Pécuchet, il souleva sa casquette et, apercevant un front couvert de plaques cuivrées, « Ah ah, Fructus Belli, ce sont des syphilides, mon bonhomme. Soignez-vous, diable, ne badinons pas, avec l'amour. » Pécuchet, honteux, remit sa casquette, une sorte de béret bouffant sur une visière en forme de demi-lune, et dont il avait pris le modèle dans l'Atlas d'Amoros. Les paroles du docteur le stupéfièrent. Il y songeait, les yeux en l'air, et tout à coup fut ressaisi. Vaucorbeil l'observait, puis d'une chiquenaude, il fit tomber sa casquette. Pécuchet recouvra ses facultés. « Je m'en doutais, » dit le médecin. « La visière vernie vous hypnotise comme un miroir. Et ce phénomène n'est pas rare chez les personnes qui considèrent un corps brillant avec trop d'attention. » Il indiqua comment pratiquer l'expérience sur des poules, enfourcha son bidet et disparut lentement. Une demi-lieue plus loin, ils remarquèrent un objet pyramidal dressé à l'horizon dans une cour de ferme. On aurait dit une grappe de raisin noir monstrueuse, piquée de points rouges, çà et là. C'était, suivant l'usage normand, un long mât garni de traverses où juchaient les dindes se rengorgeant au soleil. Entrons, et Pécuchet aborda le fermier qui consentit à leur demande. Avec du blanc d'Espagne, ils tracèrent une ligne au milieu du pressoir, lièrent les pattes d'un dindon, puis l'étendirent à plat ventre, le bec posé sur l'arrêt. La bête ferma les yeux et bientôt sembla morte. Il en fut de même des autres. Pouvoir les repasser vivement à Pécuchet qui les rangeait de côté dès qu'elles étaient engourdies. Les gens de la ferme témoignèrent des inquiétudes. La maîtresse cria, une petite fille pleurait. Pouvoir détacha toutes les volailles. Elles se ranimaient progressivement, mais on ne savait pas les conséquences. À une objection un peu rêche de Pécuchet, le fermier empoigna sa fourche. « Filez, nom de Dieu, ou je vous crève la paillasse !» Ils détalèrent. N'importe, le problème était résolu, l'extase dépend d'une cause matérielle. Qu'est-ce donc la matière? Qu'est-ce que l'esprit? D'où vient l'influence de l'une sur l'autre et réciproquement? Pour s'en rendre compte, ils firent des recherches dans Voltaire, dans Bossuet, dans Fénelon, et même ils reprirent un abonnement à un cabinet de lecture. Les maîtres anciens étaient inaccessibles par la longueur des œuvres ou la difficulté de l'idiome, mais Jouffroy et Damiron les initièrent à la philosophie moderne, et ils avaient des auteurs touchant celles du siècle passé. Pouvoir tirer ses arguments de Lamétrie, de Locke, d'Helvétius, Pécuchet, de Monsieur Cousin, Thomas Ryde et Gérandeau. Le premier s'attachait à l'expérience, l'idéal était tout pour le second. Il y avait de l'Aristote dans celui-ci, du Platon dans celui-là, et ils discutaient. « L'âme est immatérielle, » disait l'un. « Nullement, » disait l'autre. La folie, le chloroforme, une saignée la bouleverse, et puisqu'elle ne pense pas toujours, elle n'est point une substance ne faisant que penser. « Cependant, » objecta Pécuchet, « j'ai en moi-même quelque chose de supérieur à mon corps, et qui parfois le contredit. Un être dans l'être, l'homo duplex, allons donc. Des tendances différentes révèlent des motifs opposés, voilà tout. Mais ce quelque chose, cette âme, demeure identique sous les changements du dehors. Donc elle est simple, indivisible, et partant spirituelle. Si l'âme était simple, répliqua Bouvard, le nouveau-né se rappellerait, imaginerait comme l'adulte. La pensée, au contraire, suit le développement du cerveau. Tant à être indivisible, le parfum d'une rose ou l'appétit d'un loup, pas plus qu'une volition ou une affirmation, ne se coupe en deux. Ça n'y fait rien, dit Pécuchet. L'âme est exempte des qualités de la matière. Admets-tu la pesanteur, reprit Bouvard. Or, si la matière peut tomber, elle peut de même penser. Ayant eu un commencement, notre âme doit finir, et dépendante des organes, disparaît avec eux. Moi, je la prétends immortelle. Dieu ne peut vouloir. Mais si Dieu n'existe pas, comment ? Et Pécuchet débita les trois preuves cartésiennes. Primo, Dieu est compris dans l'idée que nous en avons. Secondo, l'existence lui est possible. Tertio, être fini, comment aurais-je une idée de l'infini? Et puisque nous avons cette idée, elle nous vient de Dieu, donc Dieu existe. Il passa au témoignage de la conscience, à la tradition des peuples, au besoin d'un créateur. Quand je vois une horloge, oui, oui, connue, mais où est le père de l'horloger? Il faut une cause, pourtant. Bouvard doutait des causes. De ce qu'un phénomène succède à un phénomène, on conclut qu'il en dérive. Prouvez-le. Mais le spectacle de l'univers dénote une intention, un plan. Pourquoi? Le mal est organisé aussi parfaitement que le bien. Le ver qui pousse dans la tête du mouton et le fait mourir équivaut, comme anatomie, au mouton lui-même. Les monstruosités surpassent les fonctions normales. Le corps humain pouvait être mieux bâti. Les trois quarts du globe sont stériles. La lune, ce lampadaire, ne se montre pas toujours. Crois-tu l'océan destiné aux navires et le bois des arbres au chauffage de nos maisons? Pécuchet répondit. Cependant, l'estomac est fait pour digérer, la jambe pour marcher, l'œil pour voir, bien qu'on ait des dyspepsies, des fractures et des cataractes. Pas d'arrangement sans but. Les effets surviennent actuellement ou plus tard, tout dépend de loi, donc il y a des causes finales. Bouvard imagina que Spinoza, peut-être, lui fournirait des arguments, et il écrivit à Dumouchel pour avoir la traduction de CC. Dumouchel lui envoya un exemplaire appartenant à son ami le professeur Varlot, exilé au 2 décembre. L'éthique les effraya avec ses axiomes, ses corollaires. Ils lurent seulement les endroits marqués d'un coup de crayon et comprirent ceci. La substance est ce qui est de soi, sans cause, sans origine. Cette substance est Dieu. Il est seul l'étendue, et l'étendue n'a pas de borne avec quoi la borner. Mais bien qu'elle soit infinie, elle n'est pas l'infini absolu, car elle ne contient qu'un genre de perfection, et l'absolu les contient tous. Souvent, il s'arrêtait pour mieux réfléchir. Pécuchet absorbait des prises de tabac, et Bouvard était rouge d'attention. « Est-ce que cela t'amuse ?»« Oui, sans doute, va toujours. » Dieu se développe en une infinité d'attributs qui expriment chacun à sa manière l'infinité de son être. Nous n'en connaissons que deux, l'étendue et la pensée. De la pensée et de l'étendue découlent des modes innombrables, lesquels en contiennent d'autres. Celui qui embrasserait à la fois toute l'étendue et toute la pensée n'y verrait aucune contingence, rien d'accidentel, mais une suite géométrique de termes liés entre eux par des lois nécessaires. « Ah, ce serait beau !» dit Pécuchet. Donc il n'y a pas de liberté chez l'homme ni chez Dieu. « Tu l'entends ! » s'écria Bouvard. Si Dieu avait une volonté, un but, s'il agissait pour une cause, c'est qu'il aurait un besoin, c'est qu'il manquait d'une perfection, il ne serait pas Dieu. Ainsi, notre monde n'est qu'un point dans l'ensemble des choses, et l'univers, impénétrable à notre connaissance, une portion d'une infinité d'univers, émettant près d'une autre des modifications infinies. L'étendue enveloppe notre univers, mais est enveloppée par Dieu, qui contient dans sa pensée tous les univers possibles, et sa pensée elle-même est enveloppée dans sa substance. Il leur semblait être en ballon la nuit par un froid glacial, emporté d'une course sans fin vers un abîme sans fond, et sans rien autour d'eux que l'insaisissable, l'immobile, l'éternel. C'était trop fort, ils y renoncèrent. Et, désirant quelque chose de moins rude, ils achetèrent le cours de philosophie à l'usage des classes par M. Guesnier. L'auteur se demande quelle sera la bonne méthode, l'ontologique ou la psychologique. La première convenait à l'enfance des sociétés quand l'homme portait son attention vers le monde extérieur. Mais à présent qu'il la replie sur lui-même, nous croyons la seconde plus scientifique, et Bouvard et Pécuchet se décidèrent pour elle. Le but de la psychologie est d'étudier les faits qui se passent au sein du moi. On les découvre en observant. Observons. Et pendant 15 jours après le déjeuner, habituellement, ils cherchaient dans leur conscience au hasard, espérant y faire de grandes découvertes, et n'en firent aucune, ce qui les étonna beaucoup. Un phénomène occupe le moi, à savoir l'idée. De quelle nature est-elle ? On a supposé que les objets se mirent dans le cerveau et le cerveau envoie ces images à notre esprit qui nous en donne la connaissance. Mais si l'idée est spirituelle, comment représenter la matière? De là, scepticisme quant aux perceptions externes. Si elle est matérielle, les objets spirituels ne seraient pas représentés. De là, scepticisme en fait de notions internes. D'ailleurs, qu'on y prenne garde, cette hypothèse nous mènerait à l'athéisme. Car une image étant une chose finie, il lui est impossible de représenter l'infini. Cependant, objecta Bouvard, quand je songe à une forêt, à une personne, à un chien, je vois cette forêt, cette personne, ce chien. Donc les idées les représentent. Et ils abordèrent l'origine des idées. D'après Locke, il y en a deux, la sensation, la réflexion, et Condillac réduit tout à la sensation. Mais alors la réflexion manquera de base. Elle a besoin d'un sujet, d'un être sentant, et elle est impuissante à nous fournir les grandes vérités fondamentales. Dieu, le mérite et le démérite, le juste, le beau, etc. Notions qu'on nomme innées, c'est-à-dire antérieures aux faits, à l'expérience et universelles. Si elles étaient universelles, nous les aurions dès notre naissance. On veut dire par ce mot des dispositions à les avoir, et Descartes, dont Descartes patauge, car il soutient que le fœtus les possède, et il avoue dans un autre endroit que c'est d'une façon implicite. Pécuchet fut étonné. Où cela se trouve-t-il ? Dans Gérandeau, et Bouvard lui frappa légèrement sur le ventre. « Fini donc, » dit Pécuchet. Puis, venant à Condillac, « Nos pensées ne sont pas des métamorphoses de la sensation. Elles les occasionnent, les mettent en jeu. Pour les mettre en jeu, il faut un moteur, car la matière de soi-même ne peut produire le mouvement. Et j'ai trouvé cela dans ton Voltaire. » ajouta Pécuchet, en lui faisant une salutation profonde. Ils rabâchaient ainsi les mêmes arguments, chacun méprisant l'opinion de l'autre, sans le convaincre de la sienne. Mais la philosophie les grandissait dans leur estime, ils se rappelaient avec pitié leurs préoccupations d'agriculture, de politique. À présent, le muséum les dégoûtait. Ils n'auraient pas mieux demandé que d'en vendre les bibelots, et ils passèrent au chapitre deuxième, des facultés de l'âme. On en compte trois, pas davantage. Celle de sentir, celle de connaître, celle de vouloir. Dans la faculté de sentir, distinguons la sensibilité physique de la sensibilité morale. Les sensations physiques se classent naturellement en cinq espèces, étant amenées par les organes des sens. Les faits de la sensibilité morale, au contraire, ne doivent rien au corps. Qu'y a-t-il de commun entre le plaisir d'Archimède trouvant les lois de la pesanteur et la volupté immonde d'Apicius dévorant une hure de sanglier? Cette sensibilité morale a quatre genres, et son deuxième genre, désir moraux, se divise en cinq espèces, et les phénomènes du quatrième genre, affection, se subdivisent en deux autres espèces, parmi lesquelles l'amour de soi, penchant légitime sans doute, mais qui devenu exagéré, prend le nom d'égoïsme. Dans la faculté de connaître se trouve la perception rationnelle, où l'on trouve deux mouvements principaux et quatre degrés. L'abstraction peut offrir des écueils aux intelligences bizarres. La mémoire fait correspondre avec le passé comme la prévoyance avec l'avenir. L'imagination est plutôt une faculté particulière, sui generis. Tant d'embarras pour démontrer les platitudes. Le ton pédantesque de l'auteur, la monotonie des tournures, nous sommes prêts à le reconnaître, loin de nous la pensée. Interrogeons notre conscience. L'éloge sempiternel de Dugald Stewart, enfin tout ce verbiage les écœura tellement que, sautant par-dessus la faculté de vouloir, ils entrèrent dans la logique. Elle leur apprit ce qu'est l'analyse, la synthèse, l'induction, la déduction et les causes principales de nos erreurs. Presque toutes viennent du mauvais emploi des mots. Le soleil se couche, le temps se rembrunit, l'hiver approche, locution vicieuse et qui ferait croire à des entités personnelles quand il ne s'agit que d'événements bien simples. Je me souviens de tel objet, de tel axiome, de telle vérité, illusion. Ce sont les idées et pas du tout les choses qui restent dans le moi, et la rigueur du langage exige « je me souviens de tel acte de mon esprit par lequel j'ai perçu cet objet, par lequel j'ai déduit cet axiome, par lequel j'ai admis cette vérité ». Comme le terme qui désigne un accident ne l'embrasse pas dans tous ses modes, ils tâchèrent de n'employer que des mots abstraits, si bien qu'au lieu de dire « faisons un tour, il est temps de dîner, j'ai la colique ». Ils émettaient ces phrases. Une promenade serait salutaire. Voici l'heure d'absorber des aliments. J'éprouve un besoin d'exonération. Une fois maître de la logique, ils passèrent en revue les différents critériums, d'abord celui du sens commun. Si l'individu ne peut rien savoir, pourquoi tous les individus en sauraient-ils davantage? Une erreur fut-elle vieille de 100 000 ans, par cela même qu'elle est vieille ne constitue pas la vérité. La foule invariablement suit la routine. C'est au contraire le petit nombre qui mène le progrès. Vaut-il mieux se fier au témoignage des sens? Ils trompent parfois et ne renseignent jamais que sur l'apparence. Le fond leur échappe. La raison offre plus de garanties, étant immuable et impersonnelle. Mais pour se manifester, il lui faut s'incarner. Alors la raison devient ma raison. Une règle importe peu si elle est fausse. Rien ne prouve que celle-là soit juste. On recommande de la contrôler avec les sens, mais ils peuvent épaissir les ténèbres. D'une sensation confuse, une loi défectueuse sera induite et qui plus tard empêchera la vue nette des choses. Reste la morale. C'est faire descendre Dieu au niveau de l'utile comme si nos besoins étaient la mesure de l'absolu. Quant à l'évidence, niée par l'un, affirmée par l'autre, elle est à elle-même son critérium. Monsieur Cousin l'a démontré. « Je ne vois plus que la révélation, » dit Bouvard. « Mais pour y croire, il faut admettre de connaissances préalables, celle du corps qui a senti, celle de l'intelligence qui a perçu. Admettre le sens et la raison, témoignage humain, est par conséquent suspect. » Pécuchet réfléchit, se croisa les bras. « Mais nous allons tomber dans l'abîme effrayant du scepticisme. » Il n'effrayait, selon Bouvard, que les pauvres cervelles. « Merci du compliment, » répliqua Pécuchet. Cependant, il y a des faits indiscutables, on peut atteindre la vérité dans une certaine limite. Laquelle? 2 et 2 font-ils 4 toujours? Le contenu est-il en quelque sorte moindre que le contenant? Que veut dire un à peu près du vrai, une fraction de Dieu, la partie d'une chose indivisible? Ah, tu n'es qu'un sophiste. Et Pécuchet vexé bouda pendant 3 jours. Ils les employèrent à parcourir les tables de plusieurs volumes. Bouvard souriait de temps à autre et, renouant la conversation, c'est qu'il est difficile de ne pas douter. Ainsi, pour Dieu, les preuves de Descartes, de Kant et de Leibniz ne sont pas les mêmes et mutuellement se ruinent. La création du monde par les atomes ou par un esprit demeure inconcevable. Je me sens à la fois matière et pensée tout en ignorant ce qu'est l'une et l'autre. L'impénétrabilité, la solidité, la pesanteur me paraissent des mystères, aussi bien que mon âme, à plus forte raison l'union de l'âme et du corps. Pour en rendre compte, Leibniz a imaginé son harmonie, Malebranche la prémotion, Pudworth un médiateur, et Bossuet y voit un miracle perpétuel, ce qui est une bêtise. Un miracle perpétuel ne serait plus un miracle. Effectivement, dit Pécuchet. Et tous deux savourèrent qu'ils étaient là des philosophes. Tant de systèmes vous embrouillent. La métaphysique ne sert à rien. On peut vivre sans elle. D'ailleurs, leur gêne pécuniaire augmentait. Il devait 3 barriques de vin à Belgian, 12 kilogrammes de sucre à Langlois, 120 francs au tailleur, 60 au cordonnier. La dépense allait toujours, et Maître Guy ne payait pas. Ils se rendirent chez Maresco pour qu'il leur trouvât de l'argent, soit par la vente des écales, ou par une hypothèque sur leur ferme, ou en aliénant leur maison qui serait payée en rente viagère et dont ils garderaient l'usufruit. Moyen impraticable, dit Maresco, mais une affaire meilleure se combinait, et ils seraient prévenus. Ensuite, ils pensèrent à leur pauvre jardin. Bouvard entreprit les mondages de la charmille, Pécuchet la taille de l'espalier. Marcel devait fuir les plates-bandes. Au bout d'un quart d'heure, ils s'arrêtaient, l'un fermait sa serpette, l'autre déposait ses ciseaux, et ils commençaient doucement à se promener. Bouvard, à l'ombre des tilleuls, sans gilet, la poitrine en avant, les bras nus, Pécuchet tout le long du mur, la tête basse, les mains dans le dos, la visière de sa casquette tournée sur le cou par précaution. Et ils marchaient ainsi parallèlement sans même voir Marcel qui, se reposant au bord de la cahute, mangeait une chiffe de pain. Dans cette méditation, des pensées avaient surgi, ils s'abordaient, craignant de les perdre, et la métaphysique revenait. Elle revenait à propos de la pluie et du soleil, d'un gravier dans leurs souliers, d'une fleur sur le gazon. À propos de tout. En regardant brûler la chandelle, il se demandait si la lumière est dans l'objet ou dans notre œil. Puisque des étoiles peuvent avoir disparu quand leur éclat nous arrive, nous admirons peut-être des choses qui n'existent pas. Ayant retrouvé au fond d'un gilet une cigarette raspaille, ils l'émiettèrent sur de l'eau et le camphre tourna. Voilà donc le mouvement dans la matière. Un degré supérieur du mouvement amènerait la vie. Mais si la matière en mouvement suffisait à créer les êtres, ils ne seraient pas si variés. Car il n'existait à l'origine ni terre, ni eau, ni homme, ni plante. Qu'est-ce donc cette matière primordiale? On n'a jamais vu qu'il n'est rien des choses du monde, et qui les a toutes produites. Quelquefois ils avaient besoin d'un livre, Dumouchel, fatigué de les servir, ne leur répondait plus, et ils s'acharnaient à la question, principalement Pécuchet. Son besoin de vérité devenait une soif ardente. Ému des discours de Bouvard, il lâchait le spiritualisme, le reprenait bientôt pour le quitter, et s'écriait la tête dans les mains. « Oh, le doute, j'aimerais mieux le néant. » Bouvard apercevait l'insuffisance du matérialisme et tâchait de s'y retenir, déclarant du reste qu'il en perdait la boule. Il commençait des raisonnements sur une base solide, elle croulait, et tout à coup plus d'idées. Comme une mouche s'envole dès qu'on veut la saisir. Pendant les soirs d'hiver, il causait dans le muséum au coin du feu en regardant les charbons. Le vent qui sifflait dans le corridor faisait trembler les carreaux, les masses noires des arbres se balançaient, et la tristesse de la nuit augmentait le sérieux de leurs pensées. Bouvard, de temps à autre, allait jusqu'au bout de l'appartement puis revenait. Les flambeaux et les bassines contre les murs posaient sur le sol des ombres obliques, et le Saint-Pierre vu de profil étalait au plafond la silhouette de son nez, pareil à un monstrueux corps de chasse. On avait peine à circuler entre les objets, et souvent Bouvard, n'y prenant garde, se cognait à la statue. Avec ses gros yeux, sa lippe tombante et son air d'ivrogne, elle gênait aussi Pécuchet. Depuis longtemps, il voulait s'en défaire, mais par négligence remettait cela de jour en jour. Un soir, au milieu d'une dispute sur la monade, Bouvard se frappa l'orteil au pouce de Saint-Pierre, et tournant contre lui son irritation, il m'embête ce coco-là, flanquons-le dehors. C'était difficile par l'escalier, ils ouvrirent la fenêtre et l'inclinèrent sur le bord doucement. Pécuchet à genoux tâcha de soulever ses talons pendant que Bouvard pesait sur ses épaules. Le bonhomme de pierre ne branlait pas, il dut recourir à la hallebarde comme levier et arriver enfin à l'étendre tout droit. Alors, ayant basculé, il piqua dans le vide, la tiare en avant, un bruit mat retentit, et le lendemain, ils le trouvèrent cassé en 12 morceaux dans l'ancien trou au compost. Une heure après, le notaire entra, leur apportant une bonne nouvelle. Une personne de la localité avancerait 1000 écus moyennant une hypothèque sur leur ferme. Et comme il se réjouissait, pardon, elle y met une clause, c'est que vous lui vendrez les écales pour 1500 francs. Le prêt sera soldé aujourd'hui même, l'argent est chez moi dans mon étude. Ils avaient envie de céder l'un et l'autre. Bouvard finit par répondre, mon Dieu, soit convenu, dit Marescot. Et il leur apprit le nom de la personne qui était Madame Bordin. « Je m'en doutais !» s'écria Pécuchet. Bouvard humilié se tut. Elle ou un autre, qu'importait. Le principal étant de sortir d'embarras. L'argent touché, celui des écales, le serait plus tard. Ils payèrent immédiatement toutes les notes et regagnaient leur domicile quand, au détour des halles, le père Gouy les arrêta. Il allait chez eux pour leur faire part d'un malheur. Le vent, la nuit dernière, avait jeté 20 pommiers dans les cours, abattu la bouillerie, enlevé le toit de la grange. Ils passèrent le reste de l'après-midi à constater les dégâts, et le lendemain, avec le charpentier, le maçon et le couvreur. Les réparations montraient à 1800 francs pour le moins. Puis le soir, Gouy se présenta. Marianne elle-même lui avait compté tout à l'heure la vente des écales. Une pièce d'un rendement magnifique, à sa convenance, qui n'avait presque pas besoin de culture, le meilleur morceau de toute la ferme. Et il demandait une diminution. Ces messieurs la refusèrent, ont soumis le cas au juge de paix, et il conclut pour le fermier. La perte des écales, l'acre estimé 2000 francs, lui faisait un tort annuel de 70 francs, et devant les tribunaux, il gagnerait certainement. Leur fortune se trouvait diminuée. Que faire, et bientôt comment vivre? Ils se mirent tous les deux à table, pleins de découragement. Marcel n'entendait rien à la cuisine. Son dîner, cette fois, dépassa les autres. La soupe ressemblait à de l'eau de vaisselle. Le lapin sentait mauvais. Les haricots étaient incus. Les assiettes crasseuses. Et au dessert, Bouvard éclata, menaçant de lui casser tout sur la tête. « Soyons philosophes, dit Pécuchet. Un peu moins d'argent, les intrigues d'une femme, la maladresse d'un domestique. Qu'est-ce que tout cela? Tu es trop plongé dans la matière. Mais quand elle me gêne, dit Bouvard. Moi, je ne l'admets pas, repartit Pécuchet. Il avait lu dernièrement une analyse de Berkeley et ajouta. Je nie l'étendue, le temps, l'espace, voire la substance. Car la vraie substance, c'est l'esprit percevant les qualités. « Parfait, dit Bouvard, mais le monde supprimé, les preuves manqueront pour l'existence de Dieu. » Pécuchet se récria, et longuement, bien qu'il eût un rhume de cerveau causé par l'iodure de potassium, et une fièvre permanente contribuait à son exaltation. Bouvard, s'en inquiétant, fit venir le médecin. Vaucorbeil ordonna du sirop d'orange avec l'iodure, et pour plus tard des bains de cinabre. « À quoi bon, reprit Pécuchet, un jour ou l'autre, la forme s'en ira. L'essence ne périt pas. Sans doute, dit le médecin, la matière est indestructible. Cependant, mais non, l'indestructible, c'est l'être. Ce corps qui est là devant moi, le vôtre, docteur, m'empêche de connaître votre personne. N'est pour ainsi dire qu'un vêtement, ou plutôt un masque. Vaucorbeil le crut fou. Bonsoir, soignez votre masque. Pécuchet n'en ria pas. Il se procura une introduction à la philosophie hegélienne et voulut l'expliquer à Bouvard. Tout ce qui est rationnel est réel. Il n'y a même de réel que l'idée. Les lois de l'esprit sont les lois de l'univers. La raison de l'homme est identique à celle de Dieu. Bouvard feignait de comprendre. Donc l'absolu, c'est à la fois le sujet, l'objet, l'unité où viennent se joindre toutes les différences. Ainsi, les contradictoires sont résolus. L'ombre permet la lumière, le froid mêlé au chaud produit la température, l'organisme ne se maintient que par la destruction de l'organisme, partout un principe qui divise, un principe qui enchaîne. Ils étaient sur le Vigno et le curé passa le long de la claire-voie, son brésier à la main. Pécuchet le pria d'entrer pour finir devant lui l'exposition des gueules et voir un peu ce qu'il en dirait. L'homme à la soutane s'assit près d'eux et Pécuchet aborda le christianisme. Aucune religion n'a établi aussi bien cette vérité. La nature n'est qu'un moment de l'idée.
Un moment de l'idée, murmura le prêtre stupéfait.
Mais oui, Dieu, en prenant une enveloppe visible, a montré son union consubstantielle avec elle.
Avec la nature? Oh oh!
Par son décès, il a rendu témoignage à l'essence de la mort. Donc la mort était en lui, fait partie de Dieu. L'ecclésiastique se renfrogna. Pas de blasphème, c'était pour le salut du genre humain qu'il a enduré les souffrances. Erreur, on considère la mort dans l'individu où elle est un mal sans doute. Mais relativement aux choses, c'est différent. Ne séparez pas l'esprit de la matière. Cependant, monsieur, avant la création, il n'y a pas eu de création. Elle a toujours existé. Autrement, ce serait un être nouveau s'ajoutant à la pensée divine, ce qui est absurde. Le prêtre se leva, des affaires l'appelaient ailleurs.
Je me flatte de l'avoir crossé, dit Pécuchet. Encore un mot. Puisque l'existence du monde n'est qu'un passage continuel de la vie à la mort et de la mort à la vie, loin que tout soit, rien n'est, mais tout devient. Comprends-tu?
Oui, je comprends. Ou plutôt non. L'idéalisme à la fin exaspérait Bouvard. Je n'en veux plus. Le fameux cogito m'embête. On prend les idées des choses pour les choses elles-mêmes. On explique ce qu'on entend fort peu au moyen de mots qu'on n'entend pas du tout. Substance, étendue, force, matière et âme, autant d'abstractions d'imagination. Quant à Dieu, impossible de savoir comment il est, si même il est. Autrefois, il causait le vent, la foudre, les révolutions. À présent, il diminue. D'ailleurs, je n'en vois pas l'utilité.
Et la morale dans tout cela?
Ah, tant pis. Elle manque de base, effectivement, se dit Pécuchet. Et il demeura silencieux, acculé dans une impasse, conséquence des prémices qu'il avait lui-même posées. Ce fut une surprise, un écrasement. Bouvard ne croyait même plus à la matière. La certitude que rien n'existe, si déplorable qu'elle soit, n'en est pas moins une certitude. Peu de gens sont capables de l'avoir. Cette transcendance leur inspira de l'orgueil, et ils auraient voulu l'étaler. Une occasion s'offrit. Un matin, en allant acheter du tabac, ils virent un attroupement devant la porte de Langlois. On entourait la gondole de falaise, et il était question de Touache, un galérien qui vagabondait dans le pays. Le conducteur l'avait rencontré à la Croix-Verte entre deux gendarmes, et les Chavignolais exhalèrent un soupir de délivrance. Gerbal et le capitaine restèrent sur la place, puis arriva le juge de paix, curieux d'avoir des renseignements, et M. Maresco en toque de velours et pantoufles de basane. Langlois les invita à honorer sa boutique de leur présence. Ils seraient plus à leur aise, et malgré les chalands et le bruit de la sonnette, ces messieurs continuèrent à discuter les forfaits de Touache.
« Mon Dieu, dit Bouvard, il avait de mauvais instincts. Voilà tout. »
« On en triomphe par la vertu, » répliqua le notaire. « Mais si on n'a pas de vertu ?» Et Bouvard nia positivement le libre arbitre. « Cependant, dit le capitaine, je peux faire ce que je veux. Je suis libre, par exemple, de remuer la jambe. »« Non, monsieur, car vous avez un motif pour la remuer. » Le capitaine chercha une réponse, n'en trouva pas. Mais Girbal décocha ce trait. Un républicain qui parle contre la liberté, c'est drôle.
Histoire de rire, dit Langlois.
Bouvard l'interpella. D'où vient que vous ne donnez pas votre fortune aux pauvres? L'épicier d'un regard inquiet parcourut toute sa boutique. Tiens, pas si bête, je la garde pour moi. Si vous étiez Saint-Vincent de Paul, vous agiriez différemment puisque vous auriez son caractère. Vous obéissez au vôtre, donc vous n'êtes pas libre.
C'est une chicane, répondit en chœur l'assemblée. Bouvard ne broncha pas et désignant la balance sur le comptoir. Elle se tiendra inerte tant qu'un des plateaux sera vide. De même, la volonté et l'oscillation de la balance entre deux poids qui semblent égaux figurent le travail de notre esprit quand il délibère sur les motifs jusqu'au moment où le plus fort l'emporte, le détermine. Tout cela, dit Girbal, ne fait rien pour Touache et ne l'empêche pas d'être un gaillard joliment vicieux. Pécuchet prit la parole. Les vices sont des propriétés de la nature, comme les inondations, les tempêtes. Le notaire l'arrêta, et se haussant à chaque mot sur la pointe des orteils, « Je trouve votre système d'une immoralité complète, il donne carrière à tous les débordements, excuse les crimes, innocente les coupables. » « Parfaitement, dit Bouvard. Le malheureux qui suit ses appétits est dans son droit, comme l'honnête homme qui écoute la raison. Ne défendez pas les monstres. Pourquoi monstres ? Quand il naît un aveugle, un idiot, un homicide, cela nous paraît du désordre, comme si l'ordre nous était connu, comme si la nature agissait pour une fin. Alors vous contestez la providence ? Oui, je la conteste. Voyez plutôt l'histoire, s'écria Pécuchet. Rappelez-vous les assassinats de rois, les massacres de peuples, les dissensions dans les familles, le chagrin des particuliers. Et en même temps, ajouta Bouvard, car ils s'excitaient l'un l'autre, cette providence soigne les petits oiseaux et fait repousser les pattes des écrevisses. Ah, si vous entendez par providence une loi qui règle tout, je veux bien, et encore. Cependant, monsieur, dit le notaire, il y a des principes. Qu'est-ce que vous me chantez ? Une science d'après Condillac est d'autant meilleure qu'elle n'en a pas besoin. Ils ne font que résumer des connaissances acquises et nous reportent vers ces notions qui, précisément, sont discutables. Avez-vous, comme nous, poursuivi Pécuchet, scruté, fouillé les arcanes de la métaphysique ? Il est vrai, messieurs, il est vrai. Et la société se dispersa. Mais Coulon, les tirant à l'écart, leur dit d'un ton paterne qu'ils n'étaient pas dévots certainement, et même ils détestaient les jésuites. Cependant, ils n'allaient pas si loin qu'eux. Oh non, bien sûr. Et au coin de la place, ils passèrent devant le capitaine qui rallumait sa pipe en grommelant. « Je fais pourtant ce que je veux, nom de Dieu. » Bouvard et Pécuchet proférèrent en d'autres occasions leurs abominables paradoxes. Ils mettaient en doute la probité des hommes, la chasteté des femmes, l'intelligence du gouvernement, le bon sens du peuple. Enfin, sapaient les bases. Fourreau s'en émut et les menaça de la prison s'ils continuaient de tels discours. L'évidence de leur supériorité blessée, comme ils soutenaient des thèses immorales, ils devaient être immoraux, des calomnies furent inventées. Alors une faculté pitoyable se développa dans leur esprit, celle de voir la bêtise et de ne plus la tolérer. Des choses insignifiantes les attristaient, les réclames des journaux, le profil d'un bourgeois, une sotte réflexion entendue par hasard. En songeant à ce qu'on disait dans leur village et qu'il y avait jusqu'aux antipodes d'autres Coulons, d'autres Marescots, d'autres Fourreaux, ils sentaient peser sur eux comme la lourdeur de toute la terre. Ils ne sortaient plus, ne recevaient personne. Un après-midi, un dialogue s'éleva dans la cour entre Marcel et un monsieur ayant un chapeau à large bord avec des conserves noires. C'était l'académicien Larsonneur. Il ne fut pas sans observer un rideau entrouvert, des portes confermées. Sa démarche était une tentative de raccommodement, et il s'en alla furieux chargeant le domestique de dire à ses maîtres qu'il les regardait comme des goujats. Bouvard et Pécuchet ne s'en soucièrent. Le monde diminuait d'importance. Ils l'apercevaient comme dans un nuage descendu de leur cerveau, sur leur prunelle. N'est-ce pas d'ailleurs une illusion, un mauvais rêve ? Peut-être qu'en somme les prospérités et les malheurs s'équilibrent, mais le bien de l'espèce ne console pas l'individu. « Et que m'importent les autres ? » disait Pécuchet. Son désespoir affligeait Bouvard, c'était lui qui l'avait poussé jusque-là, et le délabrement de leur domicile avivait leur chagrin par des irritations quotidiennes. Pour se remonter, il se faisait des raisonnements, se prescrivait des travaux et retombait vite dans une paresse plus forte, dans un découragement profond. À la fin des repas, il restait les coudes sur la table à gémir d'un air lugubre. Marcel en écarquillait les yeux, puis retournait dans sa cuisine, où il s'empiffrait solitairement. Au milieu de l'été, ils reçurent un billet de faire-part annonçant le mariage de Dubouchel avec Madame Veuve Olympe Zulma Poulet. Que Dieu le bénisse! Et ils se rappelèrent le temps où ils étaient heureux. Pourquoi ne suivaient-ils plus les moissonneurs? Où étaient les jours qu'ils entraient dans les fermes, cherchant partout des antiquités? Rien maintenant n'occasionnerait ces heures si douces que remplissaient la distillerie ou la littérature. Un abîme les en séparait, quelque chose d'irrévocable était venu. Il voulut faire comme autrefois une promenade dans les champs, allèrent très loin, se perdirent. De petits nuages moutonnaient dans le ciel, le vent balançait les clochettes des avoines. Le long d'un pré, un ruisseau murmurait, quand tout à coup une odeur infecte les arrêta. Et ils virent sur des cailloux, entre des joncs, la charogne d'un chien. Les quatre membres étaient desséchés. Le rictus de la gueule découvrait sous des babines bleuâtres des crocs d'ivoire. À la place du ventre, c'était un amas de couleurs terreuses et qui semblait palpiter, tant grouillé dessus la vermine. Elle s'agitait frappée par le soleil sous le bourdonnement des mouches, dans cette intolérable odeur, odeur féroce et comme dévorante. Cependant, Bouvard plissait le front et des larmes mouillèrent ses yeux. Pécuchet dit stoïquement, « Nous serons un jour comme ça. » L'idée de la mort les avait saisis, ils en causèrent en revenant. Après tout, elle n'existe pas. On s'en va dans la rosée, dans la brise, dans les étoiles. On devient quelque chose de la sève des arbres, de l'éclat des pierres fines, du plumage des oiseaux. On redonne à la nature ce qu'elle vous a prêté, et le néant qui est devant nous n'a rien de plus affreux que le néant qui se trouve derrière. Il tâchait de l'imaginer sous la forme d'une nuit intense, d'un coup sans fond, d'un évanouissement continu. N'importe quoi valait mieux que cette existence monotone, absurde et sans espoir. Ils récapitulèrent leurs besoins inassouvis. Bouvard avait toujours désiré des chevaux, des équipages, les grands crus de Bourgogne, et de belles femmes complaisantes dans une habitation splendide. L'ambition de Pécuchet était le savoir philosophique. Or le plus vaste des problèmes, celui qui contient les autres, peut se résoudre en une minute. Quand donc arriverait-elle ? Autant tout de suite en finir. Comme tu voudras, dit Bouvard. Et ils examinèrent la question du suicide. Où est le mal de rejeter un fardeau qui vous écrase, et de commettre une action ne nuisant à personne ? Si elle offensait Dieu, aurions-nous ce pouvoir ? Ce n'est point une lâcheté, bien qu'on dise, et l'insolence est belle de bafouer même à son détriment ce que les hommes estiment le plus. Ils délibérèrent sur le genre de mort. Le poison fait souffrir. Pour s'égorger, il faut trop de courage. Avec l'asphyxie, on se rate souvent. Enfin, Pécuchet monta dans le grenier deux câbles de la gymnastique, puis les ayant liés à la même traverse du toit, laissa pendre un nœud coulant et avança dessous deux chaises pour atteindre aux cordes. Ce moyen fut résolu. Il se demandait quelle impression cela causerait dans l'arrondissement, où iraient ensuite leur bibliothèque, leur paperasse, leur collection. La pensée de la mort les faisait s'attendrir sur eux-mêmes. Cependant, ils ne lâchaient pas leur projet, et à force d'en parler, s'y accoutumèrent. Le soir du 24 décembre, entre 10h et 11h, ils réfléchissaient dans le muséum habillés différemment. Bouvard portait une blouse sur son gilet de tricot, et Pécuchet, depuis 3 mois, ne quittait plus la robe de moine par économie. Comme ils avaient grand faim, car Marcel, sorti dès l'aube, n'avait pas reparu, Bouvard eut hygiénique de boire un carafon d'eau-de-vie et Pécuchet de prendre du thé. En soulevant la bouilloire, il répandit de l'eau sur le parquet. « Maladroit !» s'écria Bouvard. Puis, trouvant l'infusion médiocre, il voulut la renforcer par 2 cuillerées de plus. « Ce sera exécrable !» dit Pécuchet. « Pas du tout !» Et chacun tirant à soi la boîte, le plateau tomba, une des tasses fut brisée, la dernière du beau service en porcelaine. Bouvard pâlit. Continue, saccage, ne te gêne pas. Grand malheur, vraiment. Oui, un malheur, je la tenais de mon père. Naturel, ajouta Pécuchet en ricanant. Ah, tu m'insultes. Non, mais je te fatigue, je le vois bien, avoue-le. Et Pécuchet fut pris de colère, ou plutôt de démence. Bouvard aussi. Ils criaient à la fois tous les deux, l'un irrité par la faim, l'autre par l'alcool. La gorge de Pécuchet n'émettait plus qu'un râle. « C'est infernal, une vie pareille. J'aime mieux la mort. Adieu !» Il prit le flambeau, tourna les talons, claqua la porte. Bouvard, au milieu des ténèbres, eut peine à l'ouvrir, courut derrière lui, arriva dans le grenier. La chandelle était par terre et Pécuchet debout sur une des chaises, avec le câble dans sa main. L'esprit d'imitation emporta Bouvard. « Attends-moi !» Et il montait sur l'autre chaise, en s'arrêtant tout à coup. « Mais nous n'avons pas fait notre testament !»« Tiens, c'est juste !» Des sanglots gonflaient leur poitrine, ils se mirent à la lucarne pour respirer. L'air était froid et des astres nombreux brillaient dans le ciel, noir comme de l'encre. La blancheur de la neige qui couvrait la terre se perdait dans les brumes de l'horizon. Ils aperçurent de petites lumières à ras du sol et grandissant, se rapprochant, toutes allaient du côté de l'église. Une curiosité les y poussa. C'était la messe de minuit. Ces lumières provenaient des lanternes des bergers. Quelques-uns sous le porche secouaient leurs manteaux. Le serpent ronflait, lançant fumée. Des vers suspendus dans la longueur de la nef dessinaient trois couronnes de feu multicolores. Et au bout de la perspective des deux côtés du tabernacle, des cierges géants dressaient des flammes rouges. Par-dessus les têtes de la foule et les caplines des femmes, au-delà des chantres, on distinguait le prêtre dans sa chasuble d'or. À sa voix aiguë répondaient les voix fortes des hommes emplissant le jubé, et la voûte de bois tremblait sur ses arceaux de pierre. Des images représentant le chemin de la croix décoraient les murs. Au milieu du chœur devant l'autel, un agneau était couché, les pattes sous le ventre, les oreilles toutes droites. La tiède température leur procura un singulier bien-être, et leurs pensées orageuses tout à l'heure se faisaient douces, comme des vagues qui s'apaisent. Ils écoutèrent l'évangile et le credo, observaient les mouvements du prêtre. Cependant, les vieux, les jeunes, les pauvres sans guenilles, les fermières en haut bonnet, les robustes gars à blond favori, tous priaient, absorbés dans la même joie profonde, et voyaient sur la paille d'une étable rayonner comme un soleil le corps de l'enfant Dieu. Cette foi des autres touchait Bouvard en dépit de sa raison et Pécuchet, malgré la dureté de son cœur. Il y eut un silence, tous les dos se courbèrent, et au tintement d'une clochette, le petit agneau bêla. L'hostie fut montée par le prêtre au bout de ses deux bras, le plus haut possible. Alors éclata un chant d'allégresse qui conviait le monde au pied du roi des anges. Bouvard et Pécuchet involontairement s'y mêlèrent, et ils sentaient comme une aurore se lever dans leur âme.